Europe 1 Culture Média.
Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football?
J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon, je l'adore comme joueur, bon.
Vous avez reconnu cette archive savoureuse Johnny Hallyday dans le 20h de Claire Chazal qui confond le footballeur Zizou avec la chanteuse Zazie. Eh bien, Zazie sera notre invitée. 4 ans qu'elle n'avait pas fait d'album après Essentiel qui a été disque de platine. Elle nous présente le nouveau dans pas très longtemps, ce sera en deuxième heure. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, on va partir voir une expo sur la météo, ça se passe au Havre. Et on aura droit à un coup de gueule du Belge Olivier Pouls. Il y aura également, évidemment, Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences avec Frédéric Le Ternier. Et comme nous sommes vendredi, l'actu des coulisses et du sport business avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Notre infomédia, nous serons avec une agrégée de lettres aux 700 000 abonnés sur le réseau social TikTok. Sa spécificité, vous faire aimer la langue de Molière et toutes les subtilités avec des vidéos humoristiques. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct pour évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque, par exemple les parties sur Zizou, sur Europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Avant qu'on parle de cette expo au Havre, au sommaire de votre journal des médias.
Eh bien TF1 qui se dit elle aussi victime d'une erreur d'arbitrage et se plaint auprès de la FIFA. Une programmation spéciale de tous les titres de magazines de Bayard Jeunesse. La première bande-annonce officielle du documentaire de Netflix sur Harry et Meghan. Et puis la disparition de la comédienne Mylène de Mongeau hier à l'âge de 87 ans.
Mais on commence évidemment par le top 3 des audiences d'hier qu'ont regardé les Français à la télé.
Ils ont logiquement regardé le match de football sur TF1. C'était Allemagne-Costa Rica, le score 4-2 pour l'Allemagne. 5,5 millions de spectateurs, 24,1% de part d'audience. Or, numéro 2, c'était la série de M6, L'Homme de nos vies. Une série dramatique avec Elena Noguera, Elodie Frégé, Jonathan Zakaï. Très beau casting qui a su attirer 2,360 millions de spectateurs, 12,4% de part d'audience. Et puis sur la dernière marche du podium, Envoyé spécial avec Élise Lucet. Il y avait un sujet sur les TE. Un autre sur les paris sportifs, 2 millions de spectateurs, 10,4% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
On en avait parlé ici hier, évidemment. TF1 qui avait privé les spectateurs de la fin du match France-Tunisie, qui avait envoyé la pub mercredi, n'entend pas, on restait là.
Et petit rappel des faits, mercredi, donc vous l'avez dit, Philippe, lors de l'ultime match de poule des Bleus face à la Tunisie, l'équipe de France était menée 1-0 avant qu'Antoine Griezmann ne vienne égaliser le score. Pensant le match terminé, la chaîne a envoyé les pubs pour passer ensuite au mag. Et bien le souci, c'est que l'arbitre a fait appel à la vidéo et a finalement annulé le but de l'équipe de France.
Alors qu'il avait sifflé la fin du match.
Tout à fait, vous
avez
raison de préciser.
Donc TF1 avait raison de croire le match terminé, car effectivement, il était terminé.
Mais la chaîne s'est tout de même excusée. Elle décide de se plaindre dorénavant de dysfonctionnement auprès de la FIFA. Elle déplore un préjudice pour ses téléspectateurs et aussi son image de marque. On en reparle ce matin avec Sacha Nokovic. Ce sera dans Sport Média.
En fin d'année, le groupe Bayard Jeunesse propose une programmation spéciale pour les enfants et les ados.
Avec tous les titres de la maison, Okapi, Astrapi, J'aime lire, Phosphore, etc., etc., ils se rallient tous autour du thème de la solidarité. Delphine Solière, la directrice de publication pour les moins de 12 ans, nous explique le choix de ce thème.
Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux autres et puis surtout il faut commencer assez jeune parce que les enfants sont souvent centrés sur leur propre personne, sur leurs copains, sur leur petit univers et nous en tant que médias, ça nous a semblé vraiment intéressant d'élargir leur champ et de leur faire ouvrir les yeux sur le monde autour d'eux.
Et j'ai également demandé à Delphine Solière si on pouvait parler de tous les sujets aux enfants et surtout comment on les abordait.
Je pense que c'est vraiment la mission de la presse, à la fois de faire comprendre ce qui se passe dans le monde et puis d'aider ses lecteurs à agir. Et nous, en tant que journalistes jeunesse, nous sommes au premier plan pour accompagner les enfants tout au long de l'année, pas qu'au moment de Noël, pour leur transmettre des valeurs qui leur permettent de devenir plus tard de belles personnes. En fait, c'est ça qu'on cherche finalement dans tout projet éducatif, c'est d'aider à grandir en responsabilité, en intelligence et aider chaque enfant à comprendre qu'on peut faire un petit geste pour l'autre par une action de solidarité, mais aussi par comprendre qui se passe à l'autre bout du monde, par comprendre quand on fait un sujet sur les filles et les garçons, la nécessaire égalité de traitement entre filles et garçons. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui, en fait, font le lit de notre travail.
La solidarité au cœur de tous les titres jeunesse de décembre chez Bayard Jeunesse.
Hier sortait la bande-annonce du documentaire Netflix, donc très attendu car il concerne la vie du prince Harry et de Meghan Markle.
Malheureusement, toujours pas de date de diffusion pour le public, même si quand la bande-annonce apparaît, on peut se dire que ça commence à sentir bon. Il se murmure qu'elle serait disponible début 2023, cette série documentaire. En attendant, ce qu'on y voit, c'est surtout beaucoup de photos figées du couple en noir et blanc sur la bande-annonce. Un vilain cliché de Kate Middleton qui, prise sous cet angle, ressemble à une sorcière. Mais une phrase saura retenir votre attention, et à mon avis, c'est celle-ci.
When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us?
Traduction, quand l'enjeu est aussi grand, ne faudrait-il pas entendre notre version des faits? C'est Meghan Markle qui nous le dit face caméra. Et c'est vrai que c'était la promesse que le couple avait faite à la plateforme avant de signer. Eh bien, on n'a plus qu'à patienter.
Donc, c'est un documentaire autorisé, mais elle a quand même laissé passer une photo où elle ressemble à une sorcière.
La Kate Middleton, c'est celle qu'elle ne peut pas supporter.
Vous avez raison.
On sent que c'est mal anglais exprès.
Ouh là 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 là, je sens que ça va faire parler. La comédienne Mylène de Mongeau s'est éteinte hier.
La comédienne, oui, est décédée hier à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Elle était considérée comme l'une des figures du cinéma populaire français, souvent comparée à Brigitte Bardot pour leur ressemblance et puis pour leur amour des animaux. Elle a tourné dans plus de 70 films avec Jean Marais, Yves Montand ou encore Roger Moore. On se souvient d'elle notamment dans la trilogie Fantomas ou plus récemment dans la série de films Camping.
Merci Frédéric Le Tournier, merci pour cette semaine. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr et on vous retrouve tout à l'heure pour parler de cette fameuse expo dans cette belle ville du Havre.
Avec
dans un
plaisir.
Instant, sur Europe 1, notre info média du jour, comment valoriser la langue française, comment comprendre ses subtilités grâce à TikTok. On ne l'attendait pas là. Réponse avec une TikTokeuse, c'est pas tout à fait une TikTokeuse comme les autres, c'est une agrégée de lettres, elle a déjà 700 000 abonnés, elle s'appelle Athéna Sol, elle vient aussi de publier un livre chez First Edition, c'est elle-même qui l'a écrit. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Comment réconcilier les Français que nous sommes avec la langue de Molière, la nôtre, ses subtilités et ses difficultés? Comment savoir se faire entendre et se défendre grâce au vocabulaire et à la puissance des mots? Eh bien, peut-être grâce à TikTok. Vous allez me dire, quel rapport? Oui, TikTok, le réseau social des ados, s'est fait connaître pour ses vidéos de chant et de danse, filmées dans de courtes vidéos. Et quand je dis courtes, c'est parfois quelques secondes. Numéro 1 des téléchargements aux États-Unis et en Europe depuis 2021, TikTok se diversifie et cherche à élargir son public avec des contenus plus sérieux, entre guillemets, et plus ou moins informatifs. Et c'est dans cette optique qu'une professeure de français, agrégée de lettres, s'est créée un compte pour donner quelques astuces pour briller en société et ne quasiment plus faire de fautes de français. Plus de 700 000 abonnés la suivent sur Twitter. Elle va nous raconter les raisons de son succès entre info, engagement et divertissement. Bonjour Athéna Sol.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de contenu sur TikTok, je l'ai dit, vous êtes suivie par plus de 700 000 abonnés. Ça va très très vite puisque sur le livre que vous venez de publier chez First, il y a écrit par la TikTokeuse agrégée de lettres aux 650 000 abonnés. On n'arrête pas la vitesse, vous publiez ce livre tiré de votre expérience, ça s'appelle Parle ou crève, justement le jeu de mots c'est marche ou crève. Parle ou crève, quand j'ai pris conscience du pouvoir des mots, c'est le sous-titre. De quand date votre première vidéo, sur quoi portait-elle?
Alors les toutes premières, c'était vraiment juste des vidéos de moi dans ma salle de bain, donc ça n'avait absolument aucun intérêt, j'avais pas tellement compris comment fonctionnait l'appli à l'époque, je pense, mais sinon c'était fin 2020,
ouais.
Et la toute première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo qui mettait en évidence les discriminations que pouvaient subir les filles à l'école, justement.
Par exemple ?
Le fait d'avoir beaucoup de remarques sur leur tenue, le fait d'être beaucoup plus victime des moqueries, le fait parfois d'avoir des remarques de la part de certains profs aussi, le fait qu'elles vont être beaucoup plus sollicitées par leurs camarades pour aider à faire les devoirs, par exemple. Mmh. Enfin, tout ce genre de discrimination. Et donc, je faisais le parallèle avec les garçons qui, eux, se plaignaient d'avoir des barèmes beaucoup trop dur en sport, et donc je montrais que l'écart était quand même assez comique.
On parlera de ce sexisme larvé en fin d'émission, on parlera aussi de votre livre évidemment. J'en arrive à votre compte TikTok, quel a été le point de départ de sa création?
Le confinement, l'ennui, tout simplement, un peu comme la plupart des gens qui se sont mis sur cette appli en 2020, je pense.
Ouais.
Et voilà, en fait, j'avais 20 abonnés qui me suivaient, c'était mes amis. Et puis, il y a eu cette fameuse vidéo qui a fait plus de 100 000 vues en quelques heures et beaucoup de personnes se sont abonnées. Et puis après, j'ai continué.
Alors, vos vidéos TikTok durent entre 20 secondes et une minute. Le procédé est toujours le même. Vous filmez face caméra. Vous donnez une ou plusieurs infos qui concernent des mots de la langue française. On va entendre une première vidéo TikTok. Elle est très courte, dans laquelle vous expliquez, je vais vous le dire, je ne le savais pas. J'ai demandé tout à l'heure à Dimitri Pavlenko. Il ne savait pas non plus. Personne ne savait d'où venait le mot biscuit.
Vous aviez quel âge quand vous avez compris qu'un biscuit s'appelle comme ça parce qu'il a été cuit deux fois ?
Il est cuit bis.
Exactement.
On le cuit et on le recuit. Combien de vues pour celle-ci ?
Je crois qu'elle a fait 3 millions de vues, quelque chose comme ça.
Extraordinaire. Et là, on l'a passée en entier. Hein.
Oui, oui, elle est très
courte.
Il faut
expliquer. Elle est très, très courte. Rappelez-vous de ça. Biscuit. C'est le genre de vidéo qui ne prend pas beaucoup de temps, qui est très efficace sur TikTok. Vous avez analysé la raison ? À part que c'est très court et que c'est très efficace, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ?
Honnêtement, je ne pourrais jamais prétendre avoir compris comment marche l'algorithme de TikTok et ce qui fait qu'une vidéo fonctionne. Après, en effet, le fait que ce soit court pour celle-ci, ça joue, et le fait que l'information, on l'a directement, on comprend directement ce que je veux dire et tout le monde est étonné. Et ça fonctionne.
Il y a aussi bon nombre de vidéos dans lesquelles vous donnez des conseils pour améliorer son niveau de langage. On écoute l'une d'entre elles.
Aujourd'hui, je te donne 5 formules pour parler de façon plus élégante. Au lieu de dire le combientième, dis plutôt le quantième. Au lieu de dire du coup, dis plutôt par conséquent. Au lieu de dire à la base, dis plutôt à l'origine. Au lieu de dire par contre, dis plutôt en revanche. Au lieu de dire va te faire fou, dis plutôt va rayer tes grands morts.
On n'a pas bien compris, ça a coupé juste au moment où on voulait qu'on entende bien. C'est vous qui avez rajouté la musique ?
Oui.
La petite musique de nuit, c'est ça ?
Oui, voilà, sur TikTok, on peut, au départ, c'est une application de musique. Mm-hmm. Donc, on peut ajouter des sons.
Pourquoi le choix du tutoiement ? C'est la grammaire de TikTok, on tutoie les gens ?
Oui. Oui,
non, c'est naturellement, vous êtes posé la question, ou est-ce que la question ne s'est même pas posée ?
Non, parce qu'il y a quand même pas mal de créateurs qui vous voient leur audience, mais je trouve que c'est plus efficace et que ça permet un peu plus de proximité, parce que justement, même si je fais des vidéos sur la langue, je veux pas du tout prétendre à un certain élitisme ou quoi, je veux rester hyper accessible, donc je trouve que le tutoiement, ça s'y prête plutôt bien.
Alors parmi les vidéos qui cartonnent sur la plateforme, il y a aussi les vidéos que vous postez en expliquant tous ces mots que l'on prononce mal. Mm-hmm. J'ai très très peur, donnez-nous des exemples, qu'est-ce qu'on prononce mal ?
La plupart des mots dans lesquels il y a un « e » dans l'eau, par exemple, suivi d'une consonne, comme par exemple le mot qu'on prononce tous et toutes « œdème », se prononce en réalité « édème », tout comme « édipe », qui, voilà, les profs de lettres qu'on a à la fac, ils disent « c'est bien édipe » parce que ça vient du grec, etc. Donc le « e » dans l'eau, quand c'est suivi par une consonne, se prononce « é ». On devrait dire « estrogène »,« ésophage », etc.
On devrait dire, mais est-ce que la langue n'est pas certifiée par son usage ?
Alors, bien
C'était
sûr.
Claude Agege qui disait ça. Il disait, si tout le monde se met à prononcer les choses comme ça, la norme de la faute devient la norme.
Oui, c'est l'usage qui fait loi, c'est ce qu'on dit. La plupart des linguistes, tous les linguistes sont d'accord là-dessus, je pense.
Mais pas vous. Si,
bien sûr.
Ah, d'accord.
Moi aussi, je dis œdème. Hein.
Ah, je ne comprenais pas du tout. Parce que j'ai eu peur. Parce que moi, j'ai toujours dit le complexe, je ne vais pas dire le complexe d'Édipe.
Alors, Édipe, je le dis bien parce que je pense que je suis prof de lettres. Donc, forcément, je fais attention à ça. Mais bien évidemment que je dis œsophage aussi. Mais en effet, si on veut s'en tenir à le point de départ, on devrait le prononcer comme ça. Mais la langue, elle fluctue, elle évolue tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'elle est vivante et qu'elle est belle aussi. Donc voilà, il ne faut pas s'offusquer non plus. parce que ça a fait beaucoup parler cette vidéo. J'ai reçu pas mal d'insultes à cause de ça. Donc,
ça m'intéresse ce que vous dites parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. On peut être d'accord, ne pas être d'accord. Mais les réseaux sociaux est quelque chose qui a changé par rapport à l'époque où j'ai démarré dans ce métier, ça n'existait pas. Oui. On se faisait pas insulter pour un article.
Bah surtout pas parce qu'on parle de la langue française en général.
Mais même pour rien.
Oui, alors non, oui, maintenant il y a beaucoup de... le cyberharcèlement, c'est un vrai fléau. Hein, donc j'essaye justement aussi, c'est un des sujets que j'aborde aussi dans mes vidéos de temps en temps pour rappeler que les gens se permettent beaucoup de choses en fait derrière un écran. Donc j'hésite pas parfois à répondre en vidéo à certains commentaires qui sont particulièrement violents. Simplement pour montrer que ça existe, pour montrer ce qu'on peut recevoir quotidiennement, juste parce qu'on crée des vidéos sur Internet. Et c'est vrai que les gens sont très surpris, mais ça arrive vraiment plusieurs fois par jour.
Le remède peut être pire que le mal, vous apprend rien. Est-ce que ça arrête ces commentaires ? Est-ce que ça les diminue ? Ou au contraire, est-ce que ça rajoute de l'huile sur le feu quand on réplique ? De votre expérience, qu'est-ce que vous avez constaté ?
Disons que quand je fais une vidéo où je le dénonce, je reçois toute une vague de soutien. Donc ça, déjà, c'est plutôt chouette quand on vient de se prendre une vague de haine. Et ensuite, je dirais que ça change absolument rien. Honnêtement, ça reste la même chose.
Alors, il y a un autre format de vidéo qui consiste à ce que vous releviez un défi proposé par vos followers. Followers, je dis ça pour les gens qui ne parlent pas anglais, c'est les gens qui vous suivent. C'est à savoir, celui-ci, celui qu'on a choisi, vous allez comprendre pourquoi. Devinez le sens d'un mot très peu usité. Démonstration avec un mot que je connais bien.
Nouveau défi, on doit deviner ce qu'est la prosopagnosie. Et ça ne semble pas si difficile. Donc, agnosie, c'est l'absence de connaissance. Prosop, on le retrouve dans la prosopopée, qui est une figure de style. Et je sais que ça veut dire visage. La prosopopée, c'est le fait de donner la parole à quelque chose d'inanimé. Donc, de lui donner un visage, en quelque sorte. Prosopagnosie, je dirais que c'est le fait de ne pas pouvoir reconnaître les visages. Allez, je vérifie. Déficit de la reconnaissance des visages.
Et ça, vous le faites en live?
Oui, c'est vraiment, je ne fais pas de recherche avant. On me propose le défi, je me filme directement sans aller regarder, je ne triche pas.
Voilà. Et je confirme, puisque moi, étant prosopagnosique, je sais cette chose-là. C'est pour ceci que Joy Raffin, notre adec-chef, a choisi cet extrait. Elle m'a dit, tu vas voir, il y a un extrait qui est spécifiquement pour toi. Vous jouez un personnage dans vos vidéos? Ou pas?
Ça dépend lesquels. La plupart du temps, non. Quand je fais semblant d'engueuler les gens parce qu'ils prononcent pas mal les mots, oui, bien sûr.
Ou des fois, vous faites la fille blasée ou la fille choquée.
Oui.
Il y a, il y a une part de comédie.
Oui.
C'est pas un cours magistral, il faut le dire quand même.
Ah non, 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 pas du tout. Après, je suis souvent blasée dans la vie aussi, donc j'essaye quand même de rester le plus naturel possible. Mais simplement, oui, quand je prends cet air sévère, évidemment, c'est pas du tout moi. C'est simplement parce que je sais que ça fait rire les gens.
Ouais. C'est votre vrai nom, Athéna Sol?
Athéna, c'est mon vrai prénom, oui.
Et vous avez changé votre nom de famille?
Oui.
Parce que vous avez une autre vie, justement. Qu'est-ce que TikTok a changé pour vous?
Beaucoup de choses, surtout l'année 2022. Elle a été quand même très riche. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Être invitée au César, être invitée à Cannes, écrire un livre, jouer dans une série sur YouTube. Enfin, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. C'est arrivé assez vite en plus, donc on n'est pas forcément préparé. Mais ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, les gens étaient très gentils, très bienveillants, très simples. Donc au final, je me suis toujours sentie très bien.
C'est vrai. Ouais. Et vos élèves, comment ils l'ont pris? J'imagine que vous êtes prof. Quand on est agrégé, c'est qu'on est prof.
Oui, 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 j'enseigne toujours, bien sûr, parce que j'adore mon métier. Et mes élèves, ils me posent quelques questions, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça les perturbe plus que ça. Alors là, quand j'arrive à la rentrée, en général, oui, la première semaine, il y a une sorte un petit peu... De fourmillement, ils posent plein de questions, etc. Et puis très rapidement, je suis juste la prof pénible qui leur donne des devoirs à faire, comme toutes les autres.
Voilà. Une toute petite question, je ne vais pas vous demander dans quel lycée vous êtes, parce que je veux que vous ayez la paix, mais quelle classe vous avez?
J'ai des secondes cette année, j'ai deux classes de secondes.
On continue de parler avec Athéna Sol, parle ou crève. Quand j'ai pris conscience du pouvoir des mots, cette TikTokeuse qui a 700 000 abonnés a également écrit un livre, lui aussi très intéressant. On marque une courte pause, Culture Média revient.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Athéna Sol, la TikTokeuse agrégée de lettres aux 650 000 abonnés, c'est ce qui est écrit sur son livre. Et pas du tout, elle vient de me dire, j'en suis à 830 000. J'avais les chiffres de ce matin, c'était 700 000. Non, c'est 830 000 abonnés. Quelles sont les vidéos les plus vues? Celles sur les astuces des cours de français ou celles sur le harcèlement et sur les remarques sexistes faites quasiment tout le temps aux femmes?
En fait, aucune des deux. Plutôt les vidéos où j'engueule les gens en leur disant comment il faut prononcer ou comment il faut genrer correctement les mots. Celles-ci, elles ont fait vraiment des millions de vues jusqu'à 6 millions de vues.
Est-ce que vous avez votre propre algorithme? Est-ce que quand vous voyez qu'une vidéo marche, vous avez tendance à la refaire?
Je peux, si ça m'a plu, oui. Après, j'ai fait plein de vidéos aussi avec ma conjointe. Je lui pose des questions pendant qu'on se promène. Ça n'a pas du tout marché. Mais j'adore faire ce format-là, donc j'ai continué à le faire quand même.
On connaissait le boom des BookTok. Vous connaissez les BookTok?
Oui.
C'est le TikTok littéraire, on avait consacré une émission à ce sujet il y a quelques jours. Alors vous, votre but à vous, c'est plutôt d'analyser la langue française, d'expliquer les figures de style, les mots mal prononcés, les définitions. Dans quelle mesure votre métier de prof de lettres vous aide à faire ça? En fait, vous vulgarisez les cours que vous faites ou au contraire, vous dites tiens, je vais faire en vidéo ce que, si j'ose dire, c'est pas le rectorat, mais ce que l'administration m'interdit de faire en classe?
Ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait je m'adresse pas à des élèves, je m'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs la plupart des gens qui me suivent, c'est plutôt des étudiants, des gens qui ont entre 19 et même jusqu'à 34 ans en fait. Donc le public des moins de 19 ans arrive en troisième position. Et c'est tant mieux parce que vraiment, je veux m'adresser à tout le monde et en effet vulgariser la langue. Parce qu'en effet, bon, j'ai une formation quand même assez solide là-dessus. J'ai passé l'agrégation et je l'ai eu au bout de la deuxième fois en plus. Donc 2 ans de préparation à l'agrégation, on commence à avoir des appuis assez solides. Ensuite, j'ai fait un doctorat qui est en pause, bref. Donc oui, j'ai une formation qui est solide, j'ai quand même des connaissances. Et ce que je fais sur Internet, c'est vraiment vulgariser, donc rendre accessible. Et si j'ai juste envie de parler d'un mot parce que je le trouve drôle ou parce que je le trouve beau ou parce que je le trouve moche, ben j'ai envie de le faire en fait parce que je sais que c'est ça qui va toucher les gens. Et en général, en commentaire, ils rebondissent dessus, ils me proposent d'autres idées. Et c'est ça qui est super en fait, c'est que du coup, c'est sans fin.
830 000 followers. Est-ce que vous monétisez ce que vous faites ou est-ce que pour l'instant, c'est du bénévolat?
Ah non,
ou est-ce
non,
que vous arrivez à que ça vous fasse, rapporte
ah non,
un peu d'argent?
C'est mon métier maintenant. Enfin, j'ai 2 métiers.
Mm-hmm. Et comment vous monétisez alors ce que vous faites?
Bah, soit alors, TikTok a un fonds pour les créateurs, mm-hmm, au nombre de vues de vidéos, soit si je fais des collaborations avec des organismes. Quoi. Parfois, je peux être payée pour faire une vidéo sur un sujet.
Ce qui vous est déjà arrivé?
Oui.
Et quand vous étiez invité au Festival de Cannes, c'était payé ou c'était...
Non, là j'y suis allée à mes frais.
Voilà. Et vous continuez à travailler dans l'éducation nationale, oui, à temps plein ou à temps partiel?
À temps partiel.
Et est-ce qu'il risque de voir que vous allez disparaître?
Ah non,
Votre activité fonctionne.
Ah non, je veux pas. Je veux garder un pied dans l'enseignement. J'adore mon métier. J'ai pas du tout envie d'arrêter. Donc voilà.
On va dire un mot de votre livre qui est paru en cette rentrée, qui s'intitule « Parle ou crève ». C'est un truc de prof, ça, de sortir un livre à la rentrée. Vous racontez le harcèlement que vous avez subi ou celui qu'ont subi les internautes ou des internautes qui vous ont suivi. Jusque-là, c'est une démarche qu'on avait déjà vue, mais il y a 2 choses innovantes. D'abord, vous racontez vos premières rencontres avec le sexisme. J'ai lu ça, et là, ça me paraissait dingue. Vous aviez 9 ans. Mmh. C'est un garçon qui vous parle. Je ne pensais pas que dès 9 ans, une petite fille subissait le sexisme raconté.
Alors non, quand j'avais 9 ans, c'était un homme à la cafétéria.
Exactement, c'est oui, ça que je pensais.
Il m'a pas parlé, mais il m'a simplement regardé.
Ah, c'est terrible, c'est regardé, glaçant.
Le passage est assez... je sais pas si tu voulais lire l'extrait.
Non, continuez à parler, je cherche. Okay.
C'était à la cafétéria, j'étais avec ma mère, et derrière ma mère, on était face à face, derrière elle, je vois un homme qui est planté là, qui me regarde, vraiment, qui ne me lâche pas du regard pendant plusieurs minutes. Alors peut-être que c'était plus court, mais ça m'a paru une éternité. Et qui commence à se lécher les lèvres en me regardant, en fait, et à m'envoyer des baisers. Mmh. Et ça m'a complètement tétanisée, c'est-à-dire que ma mère est en train de me parler, je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien à part cet homme. Mmh. Et j'ai eu tellement peur, en fait, qu'en rentrant chez moi, après, pendant des mois et des mois, je pensais qu'il était devant ma maison, qu'il allait rentrer dans ma chambre. Enfin, ça a été vraiment un réel traumatisme pour moi, à cet âge-là.
Ensuite, vous servez de vos connaissances littéraires pour démonter les insultes, les agressions que subissent les filles, les femmes, en leur prouvant qu'avec un peu de répartie, avec un peu de bagage littéraire, on peut sortir de tout. On va écouter un exemple.
Hé, jolie jambe, ça ouvre à quelle heure? Ici, la femme n'est plus une femme, elle est désignée par une partie de son corps, à savoir ses jambes. C'est donc là une synecdoque. Elle est donc privée de visage, d'identité, d'humanité. Après cette première apostrophe, le poète lui pose une question. Ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre à quelle heure, qui est une expression populaire, souvent utilisée pour connaître les horaires d'ouverture des portes d'un magasin. Ici, cependant, il s'agit bien des jambes de la femme, faisant de son corps un lieu de consommation. L'emploi du pronom « ça » accentuant une fois de plus la réification de l'interlocutrice.
La réification, là aussi, c'est pointu. Ça veut dire faire une chose.
Exactement, de res en latin.
Exactement. Mais je croyais que moi, c'était prendre la partie pour le tout, c'était une métonymie. Et j'apprends que c'est une synecdoque dans la langue.
Oui, c'est 2 figures de style qui sont très très proches, en fait. Bon, y a une petite nuance, mais je ne vais pas développer maintenant. Mais...
Ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est en quoi ces mots peuvent-ils réconforter la jeune femme, la femme, ou la femme tout court, pas forcément jeune, agressée?
Alors la réconforter, je ne sais pas. Et honnêtement, face à ce genre de situation, je ne suis absolument personne pour prétendre dire comment il faudrait répondre, parce que de toute façon, je ne suis pas sûre que répondre comme ça, ça fonctionnerait. C'est plus vraiment ici pour mettre à distance ces agressions que j'ai fait ce format-là. Mmh. Ce n'est pas du tout une façon de dire « Ah bah tu vois, si tu pouvais parler, en fait, tu pourrais t'en sortir. » Ce n'est pas du tout le projet. Et en tout cas, réconforter, je ne sais pas, mais je sais que ça peut faire sourire les femmes qui l'ont vécu. Et c'est aussi, je pense, une bonne idée de se dire que par moment, on arrive à rire de ce qu'on subit parce que est-ce qu'on a d'autres choix, en fait? Si on n'en rit pas, qu'est-ce qu'on en fait?
Dans la rue?
Dans la rue, au travail, c'est pas que la rue, justement. C'est depuis l'école primaire, au travail, à la fac, chez le boulanger, chez le médecin, partout.
Vous avez été connu sur TikTok, Athéna Sol, avec votre rubrique des charros et des lettres. Alors d'abord, dites-nous ce qu'est un charro. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est.
Alors un charro, c'est un mot qui vient au départ d'une chanson de Niska, qui parlait du joueur de foot Matuidi.
Blaise Matuidi.
Exactement.
Qui joue au PSG en équipe de France.
Ça doit être ça.
Ouais.
Et donc, qu'il a surnommé Matuidi Charro. Donc le charognard qui vraiment se bat sur toutes les balles.
Il faut récupérer, il racontait, je vais faire un lapsus, il était au milieu de terrain et il récupérait tous les ballons.
Exactement.
Et il s'avouait jamais battu.
Exactement.
Il se faisait passer, il grattait derrière le mec pour lui reprendre la balle.
C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on lui a donné qu'il a eu ce surnom de Charro pour charognard. Et il y a eu d'ailleurs une petite danse qui allait avec.
Exactement.
Exactement. Et ensuite, suite à cette chanson de Niska, le mot Charro s'est popularisé. Et il s'est mis à désigner une personne, alors au départ c'est surtout un homme, qui a beaucoup de conquêtes, ou du moins qui essaye vraiment de séduire tout le temps des femmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Le mec relou, quoi, justement.
Oui, relou. Alors au départ, je sais même pas s'il y avait vraiment cette nuance, mais en tout cas, un homme qui aime draguer tout le temps. C'était un peu l'idée, quoi. Maintenant, ça s'utilise aussi pour les femmes, je l'ai déjà entendu. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce titre « Des charros et des lettres ». Je trouvais que ça sonnait très bien à l'oreille et c'était assez marrant.
Alors, le principe de ces vidéos, maintenant qu'on sait ce qu'est un charro?
Le principe de ces vidéos, justement, c'est de prendre des citations que j'ai déjà entendues ou que des abonnés m'ont envoyées et de faire comme si c'était un distique dans un poème, donc deux vers dans un poème, par exemple, et d'en faire une analyse linéaire, comme ce qu'on peut faire à l'école, à la fac, etc. Donc, en étudiant, je me suis perdue.
Ça arrive même au meilleur.
En étudiant les effets sonores, les figures de style, les effets de rythme, etc.
Vous savez déjà quelle sera votre prochaine vidéo ou pas du tout?
Je pense que je vais faire une deuxième partie sur les mots qu'on... Une troisième partie sur les mots qu'on prononce mal. Je vais en faire une troisième parce que j'en ai encore pas mal en réserve.
Et votre prochain projet? Parce qu'une fois qu'on a commencé, qu'on a mis le pied dans ce métier, on ne s'arrête plus jamais. Une fois qu'on a fait un livre, on veut en faire un autre. Une fois qu'on a fait une chaîne, on veut en faire une autre.
Là, pour cette année, j'aimerais bien me lancer sur YouTube avec des formats un petit peu plus longs pour vraiment prendre le temps d'expliquer davantage avec des choses un peu plus sourcées, etc. Donc voilà, donc, ce que je fais déjà sur TikTok, mais en version un peu plus étoffée, on va dire.
Vous avez cours lundi?
Oui.
C'est drôle.
J'ai cours lundi à 9h.
Bon cours. Merci beaucoup, Athéna Sol. Nous aussi, on a école à 9h. Ça sera Culture Média. On sera là, évidemment, lundi.
Merci.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi à 9h jusqu'à 11h. On dirait que vous ne pouvez pas nous écouter, mais nous, il y a le podcast. Je rappelle ce livre, Parle ou crève, aux éditions First. Je ne l'ai pas dit, c'est disponible au prix de 14,95€. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, comme tous les vendredis, on parle de l'actu et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic. Attention, votre casque, il est devant votre micro. Ça fait du Larsen. On va retrouver Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe.
Vous allez nous raconter la véritable histoire de cet homme qu'on a vu dans le monde entier qui a envahi le terrain en plein mondial au Qatar. Et vous nous direz également comment Médiamétrie calcule l'audience des matchs qu'on regarde au bureau ou dans le métro ou dans les bistrots. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les bizarreries médiatiques et cette semaine, vous avez été très intéressé par une chanson entendue dans le vestiaire de l'équipe de France de foot et qui vous a conduit à mener une enquête.
Exactement Philippe, une enquête, carrément. Une enquête pour tenter de comprendre comment et surtout pourquoi une séquence qui a fait florès cette semaine dans les médias est arrivée jusqu'à nous. Alors, la séquence, c'est celle-ci. Elle a été captée samedi après-midi au Qatar, dans le vestiaire des footballeurs français, juste après leur victoire contre le Danemark. C'est une courte vidéo d'une quarantaine de secondes dans laquelle on découvre que les Français ont célébré leur qualification en chanson. Cette vidéo a été reprise par un bon nombre de médias et notamment par TF1 qui l'a diffusée dimanche soir à la fois dans son journal de 20h et dans son magazine consacré à la Coupe du Monde.
Et si l'équipe de France avait trouvé son hymne ?
Alors j'ai été très intéressé par cette séquence, Philippe, car le titre qu'entonnent les joueurs français n'est pas n'importe lequel. C'est un tube qui date de 1996, Freed from Desire, traduisez libéré du désir, qui a été créé par la chanteuse italienne Gala Rizzato et qui est devenu un hymne pour la communauté LGBT. On l'entend systématiquement dans toutes les marches des fiertés du monde entier. Et la DJ Mélanie Si l'a d'ailleurs joué au mois de juin dernier pendant l'immense Gay Pride qui s'est tenu à Newcastle en Angleterre. Vous m'avez bien entendu, Philippe. L'équipe de France de foot, qui se trouve actuellement au Qatar, un pays qui emprisonne les homosexuels et qui s'est vu interdire par la FIFA de porter le brassard arc-en-ciel, s'est choisi comme hymne un hymne ouvertement LGBT. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mais alors, qui a choisi cette chanson-là ? Qui est à l'origine de cette séquence et qui l'a faite sortir de la confidentialité du vestiaire ? Eh bien, pour répondre à ces entêtantes questions, il faut raisonner par l'absurde, par élimination. Dimanche, d'abord en pleine conférence de presse, un journaliste a demandé à Raphaël Varane comment ce titre était arrivé jusqu'au vestiaire. Et voici sa réponse.
La musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient. Et on a célébré cette qualification ensemble.
Il ne sait pas d'où c'est venu. La musique est arrivée comme ça. Étrange. Tellement étrange que dimanche, toujours, un journaliste de TF1 a posé la question à un autre joueur de l'équipe de France, Théo Hernandez.
Théo, c'est vous qui avez choisi la chanson hier dans le vestiaire ?
Non, c'est pas moi, je sais pas c'est qui l'a mis, mais moi je la connaissais de ça fait longtemps déjà.
Voilà, ce n'est donc pas un joueur qui l'a choisi. La musique est arrivée comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, et la vidéo qui a été tournée par un membre du staff de la Fédération Française de Foot s'est retrouvée entre les mains des médias et sur les réseaux sociaux. Donc, eh bien donc, mon cher Philippe, si la musique n'a pas été choisie par les joueurs, on peut raisonnablement penser qu'elle l'a été par la Fédération Française de Foot, qui s'est du reste empressée de faire fuiter les images. Reste maintenant à établir pourquoi ? Eh bien, très vraisemblablement pour tenter de se racheter de l'épisode raté du brassard arc-en-ciel pas porté par les joueurs et des justifications fumeuses du capitaine Hugo Lloris. Pas mal essayé, mais finalement, pas terrible. Pas terrible en termes de communication, pas terrible parce que personne n'a eu le courage d'expliquer et donc d'assumer aux yeux du monde que Freed from Desire est un hymne ouvertement pro-LGBT et donc un choix politique. Et pas terrible non plus parce que cette chanson-là a été, dès les premiers jours du mondial, terriblement dévoyée. Figurez-vous, Philippe, qu'après la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, des dizaines de supporters saoudiens, tout en turban et en costume traditionnel, les images sont dingues, ont célébré la victoire de leur pays sur ce même refrain. L'Arabie Saoudite, ce pays qui traite si mal les femmes, les homosexuels et les droits de l'homme en général, a donc dansé sur Freed from Desire comme les joueurs français. Alors on a une pensée toute particulière ce matin pour Gala Rizzato, la créatrice du titre qui, dans sa chanson, appelle à se libérer des conventions, de la course à l'argent et à la célébrité, excusez du peu, et qui se voit donc récupérée en plein Qatar par tous ceux que les conventions, l'argent et la célébrité sont à mille lieues d'effrayer.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Mais juste un mot, dans la chanson, il n'y avait pas de référence à la communauté LGBT.
Non.
C'est la communauté qui s'est emparée
dans toutes les gay pride du monde, vous l'entendez.
De ce titre, j'ai bien compris. Et elle doit toucher des droits d'auteur. Donc c'est assez amusant ce retournement. Merci beaucoup Bruno pour cette analyse en musique. 9h49 sur Europe, comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Quel est le problème, Sacha ? J'imagine, vous allez encore nous parler de la Coupe du Monde. Je fais semblant de faire la gueule parce qu'en fait, je suis ravi.
Vous imaginez très bien, en tout cas.
Voilà.
Bravo.
Hein. Tant mieux.
Avec l'envahisseur de terrain lors de Portugal-Uruguay, tous les médias en ont parlé cette semaine. Pourtant, on n'a pas complètement raconté l'histoire de cet Italien qui est mi-footballeur, raté, mi-influenceur. Et puis, grande première dans la Coupe du Monde, le calcul de l'audience hors domicile, pas seulement celle de votre télé dans votre salon. Bah, je vous explique dans un instant comment ça marche.
Mais d'abord, l'affaire qui agite les médias en France et même dans le monde. Jeudi soir, TF1, on l'a raconté ici, a arrêté prématurément la diffusion du match Tunisie-France avant que l'égalisation d'Antoine Griezmann ne soit annulée par l'assistance vidéo, le fameux VAR. Mais suite à de nombreuses critiques, la chaîne a décidé de ne pas en rester là.
Bah, souvenez-vous, hein, juste après son envoi de pub prématuré, TF1 a d'abord multiplié les messages d'excuses, mea culpa du commentateur Grégoire Margoton, communiqué de presse officielle de la chaîne. Mais le soir même, le ton commence à changer. On est dans l'émission Le Mac de la Coupe du Monde avec Denis Brognard et l'animateur entame alors la défense de TF1, images et surtout son à l'appui.
Écoutez, et on en reparle juste après pour parler règlement. Quatre coups de sifflet au total. Le match est terminé. Voilà ce que vous n'aviez pas forcément en tête.
Et oui, ce que les téléspectateurs de TF1 ont surtout gardé en tête, c'est l'image du générique de fin envoyée au moment où l'arbitre communique avec le fameux VAR. Et cette image, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde s'en est moqué. Il y a eu des parodies, des sketchs. Bref, c'est pas génial pour l'image de la chaîne.
Y compris hier dans Quotidien, chaîne du groupe TMC.
Ah oui, n'hésite pas. Ils
du groupe TF1, pardon. Du groupe TF1. Quotidien sur TMC, chaîne du groupe TF1, pardon.
Résultat, comme la Fédération française de foot qui a porté réclamation pour changer le résultat, TF1 se dit elle aussi victime d'une erreur d'arbitrage. Son directeur général adjoint, François Pélissier, nous explique pourquoi il contre-attaque.
Nous avons écrit à la FIFA pour nous plaindre d'un préjudice majeur pour nos téléspectateurs et pour l'image de TF1 suite à l'erreur d'arbitrage à la fin du match France-Tunisie. L'arbitre ayant fait appel à la VAR, alors même qu'il n'avait pas le droit de le faire puisque le jeu avait repris et qu'il avait sifflé la fin du match.
François Pélissier qui est surtout le patron des sports de TF1.
Bien sûr, et c'est pas le seul reproche qu'il fait à la FIFA. Comme à chaque Coupe du Monde, vous savez que la chaîne doit minimiser les pertes, on gagne pas d'argent avec un mondial. C'est quand même 70 millions d'euros d'investissement pour cette Coupe du Monde au Qatar. Et pour ça, TF1 doit absolument caser ses pages de pub entre les programmes. Problème, c'est que la FIFA a lancé une nouveauté qui ne l'est pas vraiment cette année, sans prévenir TF1. Ce sont ces fameux temps additionnels. Vous regardez l'écran en haut à gauche à la fin du match, le petit carré rouge,
vous
avez un chiffre. D'habitude, c'est 3, 4, 5 minutes.
Ouais.
Et là, pour cette Coupe du Monde, c'est 7, 8, 10, 12 minutes. Donc forcément, ça complique la tâche de la chaîne. Si vous prenez le 8e de finale, France-Pologne, ce sera dimanche à 16h. Au coup de sifflet final, il faudra que TF1 cale ses pubs entre l'interview Didier Deschamps, le Mac de Denis Brognard, le JT avancé à 19h15 et le second match à 20h. Bref, un vrai casse-tête.
Alors, vous venez de parler de France-Pologne. On va donner son audience sur Europe dès lundi matin, évidemment. Et seront comptabilisés, ce qui est nouveau, les spectateurs hors domicile. Expliquez-nous à quoi ça correspond.
Donc c'est la grande nouveauté, c'est vrai que pour la première fois pour cette Coupe du Monde, Médiamétrie, c'est l'institut de mesure qui donne les scores des chaînes chaque matin, inclut cette audience. En fait, ce sont les personnes qui regardent le mondial à l'hôtel, au bar, au restaurant. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant pour ce mondial, avec les cases horaires, les matchs en plein après-midi, en semaine, et ceux qui regardent branchés sur leur smartphone ou l'ordinateur, les petits malins comme vous, Philippe, je vous ai vu au bureau l'après-midi,
pas du
qui regardent les matchs tranquillement. En loose day. Bref, comment ça marche? C'est très simple. J'ai posé la question à Julien Rosanvallon, le DG adjoint de Médiamétrie, qui nous explique tout ça.
Depuis mars 2020, nous mesurons l'audience de la télévision en dehors du domicile grâce à une technologie innovante. On a équipé un panel d'un dispositif de la taille d'une montre connectée. Ce boîtier analyse les sons entendus et détecte les émissions de télé et les programmes radio écoutés. Un système de localisation permet de différencier les usages à domicile et hors domicile. C'est une vraie avancée de la mesure qui révèle un apport encore plus important pour la télé lors d'événements comme la Coupe du Monde.
Vous me connaissez, un apport, ça ne m'a pas suffi. Je vais demander un chiffre, au moins pour les Bleus, et vous allez voir que c'est loin d'être négligeable.
Les téléspectateurs, en dehors de leur domicile, ont représenté en moyenne 13% de l'audience des trois matchs de l'équipe de France, ce qui représente près d'1 500 000 téléspectateurs à chaque fois.
C'est pas mal.
C'est beaucoup, ouais, voilà. C'est beaucoup.
Et c'est que pour TF1, il faudra attendre Bein qu'elle communique ses scores pour voir quelle part cet apport peut représenter chez elle.
On termine cette chronique avec l'irruption cette semaine d'un spectateur en plein match au Qatar. On a beaucoup parlé de son message politique, notamment de son drapeau arc-en-ciel, référence au mouvement LGBT auquel faisait allusion Bruno Donnet, mais vous avez creusé et le personnage est plus complexe que cela.
Lundi, 50e minute de Portugal-Uruguay, le duo de commentateurs TF1, Margoton Lizarazu, commente son action inédite, celle que la FIFA et le Qatar voulaient absolument éviter.
Il y a un arrêt de jeu.
Il a pris un plaquage.
Il a couru sur la pelouse, il a pris des risques et il a compris.
Harry Buffy. Allez, le jeu va pouvoir reprendre.
Mais ce n'était pas simplement pour se faire plaisir, c'était aussi pour amener un drapeau arc-en-ciel.
Drapeau arc-en-ciel, le t-shirt floqué, vous l'avez peut-être vu avec inscrit dessus « Sauver l'Ukraine, respect pour les femmes iraniennes ». Les caméras évitent de filmer comme on a l'habitude de le faire en général. Mais les spectateurs avec leur smartphone et les photographes de presse ne se gênent évidemment pas. Dès le lendemain, tous les médias ne parlent que de ce Mario Ferri, italien de 35 ans, spécialiste du genre depuis 15 ans, avec toujours des messages politiques, toujours beaucoup de courage, et puis des subterfuges pour s'approcher de la pelouse. Par exemple, une fois, il était passé pour un handicapé en fauteuil roulant, ou alors un photographe de presse, il est malin. Alors mardi, l'émission Quotidien a même ressorti une archive de son interview dans une grande émission de télé italienne, c'était en 2010, avec finalement la question que tout le monde se pose.
Cet intrépide jeune homme s'est inventé une profession, envahisseur de terrain de foot. Pourquoi vous faites ça ?
J'ai juste un esprit un peu barré.
Voilà, un esprit un peu barré, mais surtout une carrière de footballeur un peu ratée. En fait, Mario a toujours rêvé d'être une star du foot. Il a joué que dans des petits clubs en Inde, en Jordanie et même aux Seychelles. Alors, il y a pire comme destination, mais tout ça n'est pas très pro et pas assez médiatique pour Mario. Alors, l'été dernier, l'Italien a réussi à intégrer un club de 100 marins, ça s'appelle Trefiori. Ça lui a permis de jouer un match de Ligue Europa Conférence et la plus petite des Coupes d'Europe. C'est le seul match pro à son actif, avec une seule petite minute de temps de jeu au compteur.
Et vous m'avez dit, c'est aussi une sorte d'influenceur. Et cette intrusion sur la pelouse a permis de faire passer son compte, qu'il a un compte Mario Ferri, de 100 000 à 130 000 abonnés. Ça, c'est peut-être aussi bon pour le business. Merci
Exactement.
Beaucoup, Sacha.
Merci.
On vous retrouve vendredi. On peut vous lire dans le journal L'Équipe. Culture Média continue évidemment sur Europe après les infos de 10 heures. Notre invitée, c'est la chanteuse Zazie. Elle nous présente son tout nouvel album que je vous présente. Il s'appelle LP. Vous pouvez nous voir sur Europe1.fr. Et puis, dans les indispensables, Olivier Poulce n'est pas content. Coup de gueule contre la liste des 1000 meilleurs restos du monde. Et Frédéric Le Tornier nous emmène au Havre. Jean-Luc Lemoine arrive pour la session de rattrapage. A tout de suite.